Europe 1, 13h.
Il est 13h21, bienvenue sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud jusqu'à 14h. Et avec vous pour décrypter l'actualité, Céline, Philippe Bilger, magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole, et l'écrivain essayiste Paul Melun.
Bonjour les amis, bienvenue à bord.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver.
Un grand plaisir de revenir.
C'est vendredi, mais l'actualité ne s'arrête jamais, évidemment, et on va dérouler avec vous les faits marquants de cette journée. On va parler, bien sûr, pour commencer, de ce gérant du magasin Geox, qui a refoulé une jeune femme intérimaire qui s'est présentée voilée pour travailler dans sa boutique. La jeune femme a filmé toute la séquence et l'a diffusée ensuite sur les réseaux sociaux. Menacée de mort, accusée d'islamophobie, le gérant a préféré fermer son magasin pour le rouvrir finalement ce matin. Alors, avant de vous entendre, on va écouter un extrait de cette séquence.
Vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement.
J'ai le voile, il faut le dire, il faut passer par les mots, exactement.
Oui, mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin...
Liberté, égalité, fraternité. Un pays laïque.
En pays laïque.
Voilà, donc, sur mon contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile.
Je connais ça, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je n'accepte pas.
Alors, un extrait de cette séquence, la vidéo en tout dure 15 minutes, elle a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, évidemment. Y a-t-il un islamiste qui tente de mettre des coups de canif dans le pacte républicain, comme le dit la députée Renaissance Maud Bréjon ce matin sur Europe 1
À mon avis, c'est clair, mais en même temps, je ne voudrais pas qu'on globalise. Je veux dire par là, il y a 1000 petits exemples où, en effet, il y a des volontés de porter atteinte au pacte républicain, mais je ne voudrais pas, comme certains le font par simplisme, consister à dire que l'immigration est la cause de tout.
Oui.
Deuxième élément, j'ai pu voir avant de venir, Céline, que cette femme a avoué en riant qu'elle avait fait exprès de manifester cette résistance en riant.
Donc en provocation, quoi.
Un défi absolument. Mais il y en a une multitude en France qui...
Donc pour vous, c'est quoi alors exactement, si ce n'est pas un coup de canif dans le pacte républicain?
Alors, c'est un coup de canif dans le pacte républicain, mais à Strasbourg, il me semble, du propre aveu de celle qui il a mis ce coup de canif, que c'était plutôt une plaisanterie saumâtre qu'une volonté politique de porter atteinte au pacte républicain. Mais je suis peut-être trop naïf, paradoxalement.
Paul Melun.
Moi, je crois que ça témoigne quand même ce fait d'une difficulté de positionnement que nous avons en France, notamment à l'égard du voile. Et notre difficulté aussi par rapport à des pays multiculturalistes, par essence, comme les États-Unis d'Amérique ou le Royaume-Uni, où là-bas, effectivement, vous avez des femmes voilées qui vous servent dans les magasins où les femmes sont voilées, beaucoup de femmes sont voilées en tout cas, y compris dans les immeubles de la City, dans des grandes entreprises de conseil, voire d'avocature, etc. Par conséquent, nous Français, avec notre modèle laïque universaliste, avec nos droits de l'homme et avec nos lois, qui reflète ce paysage philosophique, historique, nous avons une difficulté de positionnement. Et je pense qu'effectivement, les islamistes s'engouffrent dans cette difficulté, s'engouffrent dans nos doutes, s'engouffrent dans nos ambiguïtés pour nous faire passer pour d'odieux islamophobes. Et qu'il y a là derrière une stratégie profonde, je dirais, de déstabilisation de la France. Alors cette jeune femme, je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne sais pas, elle, si vous voulez, les velléités politiques ou militantes qu'elle peut avoir.
Elle se présente comme une musulmane inspirante adhéré au hijab.
Voilà, bon, c'est toujours très difficile, si vous voulez, de faire d'un cas précis, comme là j'ai vu que ça avait beaucoup fait de bruit sur les réseaux sociaux, de ce cas précis-là, un enseignement. En revanche, je pense que ce cas-là est intéressant parce qu'il nous montre à quel point, effectivement, y compris dans le secteur privé, un employeur, y compris dans les services publics, quelqu'un qui est responsable aux affaires familiales ou quoi, comment appréhender cette multiplication du voile, cette multiplication de l'expression visible de l'islam dans notre société. Je pense que nous ne savons pas nous y prendre.
C'est d'autant plus choquant lorsque le commerçant peut s'appuyer sur la loi de 2016.
Alors, on va en parler
qui
dans
lui donne totalement raison.
La loi du 8 août 2016, on va en parler dans quelques instants. Mais avant, on va écouter Chantal qui nous appelle, qui nous écoute dans le Val d'Oise. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour, bonjour tous les trois.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Alors, c'est un sujet qui vous a fait réagir.
Oui, moi je réagis parce que là, je pense que cette jeune fille n'est pas venue toute seule avec son idée de venir contester dès le matin. Elle est venue en sachant exactement ce qu'elle faisait. Et c'est une façon d'entrer peu à peu dans notre vie, dans les règles de ce qui fait notre civilisation, ce qui fait la France. Et peu à peu, de nous habituer à voir dans les magasins, dans les écoles. C'est comme ça pour les sorties d'école. Et il est temps, je pense qu'il est temps que l'État prenne une règle, vote des lois, décide que ça, on a le droit, ça, on n'a pas le droit. On fait sa religion à la maison et dans la rue, dans l'espace public, dans les entreprises.
Il y a déjà des lois qui existent, Philippe Bigère. Vous pouvez peut-être répondre à Chantal.
Chantal a d'autant plus raison que malgré les lois, il y a des résistances et des oppositions qui continuent à se manifester, comme si en réalité l'état de droit français n'était pas un bouclier véritable pour certains.
Chantal.
Je pense que là, justement, c'est peu à peu, on met le pied dans la porte. Donc, on voit si c'est accepté. C'est comme les enfants, quand ils résistent à l'autorité de leurs parents. C'est peu à peu, on insiste. Et après, quand on a mis le premier pas, si elle est acceptée là, la fois d'après, elle dira « j'ai été acceptée dans tel magasin ». Moi, à qui je pense là? C'est au monsieur, au gérant de ce magasin, qui va perdre son boulot. Parce qu'on dira qu'il a peut-être été
Pour l'instant, le groupe Geox n'a pas encore réagi officiellement à cette affaire.
Et moi, je pense que tout le monde doit réagir. L'État, les députés, il faut qu'il y ait une loi qui soit votée disant que dans l'espace public et dans un magasin, c'est le patron qui décide de comment on est habillé. Si vous venez, je vais vous dire un truc simple, si vous venez avec une plume sur la tête dans un magasin, on ne va pas vous accepter. Alors, sur la tête, c'est ce qu'on peut faire de plus léger.
Oui, c'est léger.
Mais bon.
Non, mais c'est valable pour tous les signes religieux, de toutes les manières. Si on a une croix, on ne peut pas non plus.
Pour les signes religieux et pour tout ce qui est bizarre fait pas dans un magasin ou dans un endroit où on reçoit le public. Si vous êtes dans un bureau de poste, vous devez accepter fait qu'en France, on ne se voile pas et qu'on ne voile pas sa face. Et en fait, c'est la même chose pour tous. C'est un petit peu d'entrisme. Et moi, je pense qu'on doit prendre des décisions au niveau de l'État.
Merci Chantal pour ce témoignage et continuez à nous écouter dans le Val d'Oise. Et nous, on reste ensemble, bien sûr, dans quelques instants. On poursuit le débat autour de cette affaire du côté de Strasbourg avec Paul Melun, avec Philippe Bilgère et avec vous, auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. À tout de suite.
De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Il est 13h33 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous Céline Giraud et vous poursuivez le débat aujourd'hui avec l'écrivain et essayiste Paul Melun et le magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilgère.
Et on continue à parler de cette affaire de Strasbourg, de ce magasin Geox. Je rappelle, le gérant a refoulé une jeune femme intérimaire qui s'était présentée voilée pour travailler dans la boutique. Je précise, c'est d'ailleurs notre correspondante à Strasbourg, Mélina Fachin, qui le disait tout à l'heure, que cet intérimaire était déjà venue dans ce magasin, venue travailler pour une mission ponctuelle sans son voile. Et elle est revenue délibérément avec son voile. Donc, on rejoint ce que vous disiez, Philippe, la c'est provocation. En attendant, au niveau de la loi, juridiquement, est-ce que le gérant était dans son droit?
Moi, si je me souviens bien de la formulation de la loi de 2016, certes, elle ne formule pas une interdiction claire et nette, mais elle dit que si le gérant, dans mes souvenirs...
Alors, la phrase, je vais vous la donner, c'est « L'employeur privé est en droit d'imposer une tenue vestimentaire ou d'interdire le port de certains vêtements, notamment dans le secteur du commerce. »
Secteur du commerce, s'il considère que c'est en quelque sorte contre-productif. Alors, bien sûr, s'il y avait une action, je crois que ça serait discuté, tout cela. Mais je considère que le commerçant, à partir d'une application honnête de la loi de 2016, est tout à fait dans son droit. D'ailleurs, je rappelle que cette personne, vous l'avez dit, Céline, était déjà venue sans voile, et elle est revenue sans voile, et elle a avoué qu'elle a vécu cela comme une plaisanterie saumâtre, au détriment du commerçant.
Alors, depuis la loi du 8 août 2016 sur le travail, le règlement intérieur peut contenir une clause de neutralité, notamment en matière d'expression des convictions religieuses, qui peut avoir des conséquences sur les règles vestimentaires. C'est ce que dit cette loi publiée par le ministère du Travail en 2016.
Voilà. Oui, mais voilà qui est assez clair. Je partage tout à fait l'analyse de Philippe. Maintenant, il ne faut pas être dupe, si vous voulez, sur la finalité. Et ce que nous explique votre correspondance à Strasbourg est très important. C'est-à-dire qu'elle est revenue délibérément, elle est venue voilée. Et si vous voulez, c'est toujours un peu la même chose, en fin de compte. Dans pas mal d'affaires similaires, il y a une volonté de tester un certain nombre de limites. Et du moment que l'interlocuteur en face fait preuve de fermeté dans les limites par rapport à l'expression visible de la religion, en l'occurrence l'islam, eh bien là, s'ensuit une sorte d'attaque groupée, de fatwa, contre la personne avec laquelle la personne a interagi. En l'espèce, le gérant de ce magasin de chaussures. Le gérant du magasin de chaussures se trouve sous le feu d'une violence verbale inouïe, violence verbale qui, on l'a vu malheureusement, s'est parfois transformée en violence physique. La méthode est implacable, elle a vocation à terroriser toutes celles et tous ceux qui, face à l'expression visible de l'islam et de l'islam politique, pourraient constituer un obstacle pour les dissuader de redevenir un obstacle à d'autres reprises ou pour dissuader d'autres d'être un obstacle à l'expression et à la contagion de l'islam politique en Europe. Mmh. La façon d'opérer est extrêmement efficace parce qu'elle permet, si vous voulez, de placer un halo de terreur tout autour d'une société qui a envie d'exprimer des principes de liberté fondamentale, d'humanisme, en l'espèce de refus du sexisme et d'égalité entre les hommes et les femmes concernant le voile, par exemple. Mmh. Et toutes ces limites-là ont vocation à être, si vous voulez, mises à l'épreuve, rudement, durement, par les tenants de l'islam politique sous toutes ces manifestations.
Mmh. Alors, on était à Strasbourg, on va maintenant aller à Bordeaux, sur cette attaque au couteau. Cette fois, c'était mercredi soir. La procureure de Bordeaux a confirmé que l'agression est bien en relation avec la consommation d'alcool des victimes. De victimes, je le rappelle, d'origine algérienne. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter justement la procureure de Bordeaux.
L'audition de M. Salé Karat à l'hôpital a permis de recueillir ses premières déclarations. L'agresseur, qu'il ne connaissait pas, se serait approché de son ami, Rachid Bouhab, et s'en serait pris à lui avant de leur reprocher à l'un et à l'autre, dans un français approximatif, de boire alors que c'était l'Aïd. Les deux amis lui répondaient « ça ne te regarde pas » et à ce moment-là, l'auteur leur assénait des coups de poing. Un nouveau témoignage fait état d'une première altercation juste avant les faits, suivi de violences entre l'assaillant et deux autres individus pour un motif a priori similaire. S'en serait suivi alors un coup de poing et un coup de coude avant que l'agresseur n'exhibe un couteau en leur demandant de venir se battre. Il serait finalement parti et aurait poursuivi son chemin en direction du miroir d'eau.
Alors, ce qu'on sait, Philippe Bilger, c'est que cet assaillant était visiblement sorti avec l'intention de s'en prendre à des personnes consommant de l'alcool, des musulmans qui consommeraient de l'alcool le jour donc de l'Aïd el-Fitr, cette fête qui célèbre la fin du jeûne du Ramadan. Alors, elle n'a pas été qualifiée d'acte terroriste, mais c'est un motif religieux.
Absolument. Et cette affaire au sujet de laquelle je trouve que le maire de Bordeaux est un peu léger, en vantant de n'avoir pas armé sa police municipale avec des armes létales, me fait penser à celle dont on a déjà parlé, Céline, qui, pour ce professeur qui se voit reprocher de boire un verre d'eau dans une classe, et l'élève lui dit « mais arrêtez de boire », et elle accepte d'obtempérer à cette injonction. Il y a une multitude de volontés d'instiller dans notre vivre ensemble, qui a ses règles, ses principes, sa liberté, sa tolérance, des mœurs qui n'ont rien à voir avec les nôtres.
Alors, l'agresseur, je le précise aussi, était décrit comme porteur d'un keffieh qui couvrait son visage et ne laissait voir que ses yeux. Et il aurait donc reproché à ces deux Algériens de boire de l'alcool, de consommer de l'alcool, Paul Melon.
Et cela répond à la même logique et à la même démonstration que nous avons fait sur l'affaire précédente. Les deux affaires n'ont pas grand-chose à voir sur la forme, mais sur le fond, elles sont mues par une même volonté de certains représentants de l'islam politique ou du fanatisme religieux, d'imposer un certain nombre de codes, de normes et de valeurs à d'autres. Là, en l'espèce, les premières victimes dans l'attaque de Bordeaux, ce sont eux-mêmes des musulmans. Puisque, si vous voulez, il y a là un reproche de la part de musulmans, d'un musulman intégriste vis-à-vis de musulmans qui, eux, profitent de leur existence de la façon dont ils l'entendent dans un pays libre. Et face à eux, ils sont confrontés à la terreur. Et cette terreur, donc ça fait la boucle avec ce qu'on dit tout à l'heure, cette terreur s'adresse non seulement aux Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion et quel que soit le temps de l'année, mais aussi et particulièrement, on l'a vu dans l'affaire de Samara ou dans l'affaire de Chemseddine à Viry-Châtillon, on s'en prend aussi aux musulmans qui seraient tentés de s'assimiler ou d'avoir des codes sociaux, comportementaux qui conviennent et que l'on appelle vulgairement vivre à l'occidental. Et la jeune Samara, on lui reproche de vivre à l'occidental, donc on la tabasse, on la roue de coups.
C'est ça.
De la même manière, le jeune Shamseddine, il parle à une fille, et parler à des filles, y compris dans des termes sexualisants, eh bien ça, c'est interdit en islam, et donc on va venger et on va l'agresser violemment, jusqu'à le tuer. Et donc, si vous voulez, ça procède de la même logique de terreur, et je me désole que la France au XXIe siècle, ce soit ça, un homme en camis dans les rues de Bordeaux avec une lame de couteau.
Alors faut-il protéger quelque part ces musulmans hein, qui prônent un islam modéré? Parce qu'on va le dire, hein, cet assaillant avait un projet, demandeur d'asile, d'origine afghane, 25 ans. On ne parle pas de terrorisme, je le rappelle. Mais l'islam de France, traditionnellement modéré, défié par des musulmans radicalisés, on est là-dedans.
Mais... malheureusement, Céline, et pardon pour la banalité, dans la vie intellectuelle, dans la vie politique, dans la vie religieuse, il y a une règle constante, c'est ce sont les extrêmes qui dominent les modérés. Et même si les modérés parlaient davantage, malheureusement, cette vision extrémiste de l'islam, dévoyé de mon point de vue, l'emporterait. Et donc,
mais comment faire pour protéger justement les autres, les musulmans qui vivent leur religion
Prendre conscience qu'il ne faut pas appréhender tout cela d'une manière simpliste en disant c'est l'immigration qui est cause de tout. Je dirais que cette frénésie de la violence s'inscrit d'abord dans une délinquance et une criminalité qui augmente en France parce que tout simplement on a une impuissance de l'État et par ailleurs on a des ressorts des mobiles très particuliers, vous l'avez très bien dit, qui sont religieux. Malheureusement, je crains que, à partir du moment où le dialogue singulier ou collectif n'est plus réellement possible, ces êtres sont enquistés dans leurs croyances. Eh bien, j'espère qu'on n'est pas condamné, malheureusement, à concrétiser le point de vue si juste à l'époque de Gérard Collomb.
Paul Melun, ce qui interpelle aussi dans la conférence de presse de la procureure, c'est la manière dont elle parle des victimes. Ces deux Algériens qui ne sont jamais nommés, qui n'ont pas de prénom, qui sont presque effacés. Alors que si ça avait été la petite Samara, effectivement, Zakaria, quand ce sont de jeunes personnes, évidemment, on les identifie, on les sacralise quelque part, le terme n'est peut-être pas le bon. Mais en tout cas, là, il y a cette volonté de les faire disparaître presque.
Et c'est une erreur. C'est-à-dire que nous avons un devoir dans notre commentaire, un devoir d'humanité et de morale vis-à-vis de toutes les victimes. Et là, en l'espèce, on ne peut avoir qu'une infinie compassion pour la famille de la victime, penser à la victime, penser à l'autre personne qui a été elle aussi violemment agressée. Et cette empathie-là, elle est très importante pour s'exprimer pleinement. Effectivement, je suis d'accord avec vous, il serait intéressant qu'on ait les noms, les prénoms, l'âge, voire une photo pour que la société, collectivement, puisse mettre une image et un nom sur une victime. Parce qu'une victime, c'est ce qui a permis pendant des décennies, malheureusement, d'invisibiliser l'ultra-violence qui se propageait dans notre pays. Du moment que vous dites, eh bien, c'était un fait divers, et c'est une rixe qui a mal tourné, et puis il y a trois morts, cette rixe qui a mal tourné, ces trois morts qui font un entrefilé dans la presse, ça c'était il y a 15 ou 20 ans, on ne peut pas se dire derrière que ça révèle quelque chose de la société, voire même exprimer notre empathie vis-à-vis de ces trois victimes. Donc c'est très important qu'il y ait cela, bien sûr.
13h44, on va rester ensemble, Philippe Bilizère et Paul Melun, bien sûr. On va prolonger le débat dans quelques instants avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Emmanuel Macron qui balaie l'hypothèse d'une hausse des impôts et d'un désaccord avec Bruno Le Maire, on va en parler. Et puis la fin du logement social à vie pour certains ménages, on en parle aussi. 01 80 20 39 21, tout de suite sur Europe 1.
De 13h à 14h, Céline Giraud vous informe sur Europe 1.